à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, 89.4 sur Paris et la région parisienne et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.net ou .org, comme vous voulez. Alors aujourd'hui au programme, nous allons aller écouter une conférence enregistrée au CIRA de Marseille, au Centre International de Recherche sur l'Anarchisme, qui est un organisme qui est très intéressant, qui propose des conférences de manière régulière et qui sert d'archives pour les anars. Voilà. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à Freinet. Voilà. Bonne conférence.
Il a créé ce mouvement, donc un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'école moderne. Bon, il y a plusieurs noms, tu nous expliqueras, parce qu'on dit pédagogie Freinet, l'école moderne, en France s'appelle l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne, mouvement Freinet. Donc Michel est chargé de mission pour les archives, hein, il est à la retraite, donc il a le temps, il a été enseignant, donc c'est mieux d'être enseignant pour parler de Freinet, de l'avoir appliqué, c'est quand même mieux. Et puis, tu as participé à les BT2, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les bibliothèques du travail, les petits bouquins sur tous les sujets. Donc, il a participé à plusieurs BT, notamment un sur Freud, mais pas seulement. Tu as été enseignant en français en audiovisuel Et tu as été, alors je ne sais pas si tu es toujours, du président de la FIMEM, la Fédération internationale des mouvements de l'école moderne. Donc
c'est bon, on reste 3 ans, 4 ans, c'est tout.
C'est tout. D'accord, c'est bien, il y a une rotation.
Oh oui.
Que dire de plus, je voulais profiter de l'occasion, mais tu en parleras aussi, pour rendre hommage à Henri Portier, qui a été un militant du CIRA et un militant du mouvement Freinet. Donc il était aussi passionné par les deux, donc ses amis du mouvement Freinet les emmerdaient avec l'anarchisme et vice-versa. Enfin, emmerdé. Il est venu au moins 2 fois nous parler de nous présenter un film Prix et Profil, a dit Valéry, qu'il avait contribué à ressortir, un film assez pédagogique sur qu'est-ce que c'est que les prix et qu'est-ce que sont les profits. Puis nous avait parlé, puisqu'on parle de mouvement international, de José de Tapia, qui est un enseignant freinet qui a enseigné en Espagne et au Mexique. C'est ce dont je me souviens. Après, il a écrit des textes sur les rapports entre freinet et PC, ce dont tu vas nous parler. C'est fait partie. Et donc, pourquoi Michel a été invité, non seulement il est membre du CIRA depuis très nombreuses années, et en plus, il a écrit un livre sur Freinet, le bon sens à la fois paysan et clairé. Alors, les rapports avec l'anarchisme, on va les écouter parce qu'il y en avait. Il y en avait. Donc, je te laisse la parole. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant.
Merci. Oui, alors, bon, c'est ma partie présentée, donc je vais continuer simplement. Henri Portier d'abord. Ben, Henri Portier, moi, je l'ai connu depuis les années 70, dès que je suis rentré dans le mouvement Freinet, donc immédiatement. C'était un grand bavard. Dès qu'il prenait un téléphone, ça durait au moins une heure. C'était pas le téléphone portable, donc il n'y avait pas de problème de batterie.
Un petit religieux.
Et c'est moi qui ai pris
un petit religieux féroce.
Ah oui. Oui, oui, non, mais on s'est très bien entendu. C'est lui qui m'a fait découvrir le CIRA, bien sûr. Et en même temps, c'est lui qui m'a laissé les archives du mouvement Freinet, puisqu'il en était responsable et j'ai pris la relève. Je m'intéressais déjà aux archives avant, mais enfin bon, là, c'est devenu un travail conséquent. Et bon, voilà pour parler d'Henri. Alors, bon, bien sûr, ça c'était ma spécialité. Moi, au départ, je m'étais lancé dans les archives parce que je suis d'abord du monde du cinéma. Et ce qui m'intéressait, c'était les archives cinématographiques exclusivement. Mais quand on commence à mettre le nez dedans, on s'aperçoit que le papier n'est pas loin. Parce que les films, ils sont décrits dans les textes des enfants. Donc j'ai commencé à collectionner tous les journaux scolaires, à faire des recherches dans les journaux scolaires qui étaient dans toutes les écoles de France et du mouvement Freinet en général. Et puis à partir de là, bon, ben, on arrive à toutes les archives. Et voilà. Alors, peut-être un autre point. Quand je lis un livre, j'aime bien savoir qui est l'auteur et d'où il vient, quel que soit son parcours. Je ne suis pas allé à l'école, j'ai commencé seulement au collège. J'étais dans la forêt guinéenne avec mes parents qui étaient dans un centre de recherche et par conséquent il n'y avait pas d'école, c'était l'école, mon école c'était la nature. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qui m'a fait approcher Freinet d'une façon un peu différente. Puisque lui, son école, c'était aussi la nature, par le fait, puisqu'il était paysan dans la campagne, dans un tout petit village complètement perdu et vivant en autarcie. Et donc, ça fait partie. J'ai fait des études d'ethno-anthropologie, donc ça donne un bagage qui fait qu'on n'a pas de spécialité, on s'intéresse à tout. J'ai passé mon premier bac en maths, le deuxième en philo. Enfin bon, il n'y a pas de spécialité. Et donc, ce qui est très important dans cette approche d'anthropologie et d'anthropologie, c'est que. Et en même temps, je fais du théâtre et du théâtre de Stanislavski. C'est-à-dire que ce qui est très important pour moi, c'est d'abord le vécu, se mettre dans la peau des gens. Voir ce qu'ils peuvent avoir lu, ce qu'ils peuvent avoir ressenti, quel est leur vécu. Et donc, Freinet, j'ai senti un certain nombre d'éléments communs qui me permettent de pénétrer davantage dans sa vie et dans son histoire. Alors, je ne sais pas du tout quelle connaissance vous avez de la pédagogie Freinet, à part ce que je connais, de la pédagogie Freinet et de Freinet lui-même. Donc je serais peut-être amené à vous m'arrêter, je n'ai pas de conférence. Hein. Je travaille des petites fiches et je m'adapte au public vraiment librement. Donc, dans les écrits, les histoires, les historiens qui ont travaillé sur Freinet, donc Michel Barré en particulier, ce sont tous des gens qui ne vivaient pas dans la région. Donc, ils décrivent une région qu'ils ne connaissent pas, et puis ça tient à des petits détails. Dans tous les livres d'histoire, on raconte que l'instituteur demande un jour à Freinet de commenter une image dans laquelle il voit un jeune qui est manifestement avec des menottes, les mains dans le dos, et l'instituteur lui demande où est-ce qu'il a les mains. Et Freinet n'arrive pas à répondre. Or, si on ne connaît pas le provençal, le dos, c'est forcément le culot, et le cul, en français. Et il ne peut pas dire à son instit qu'il a les mains dans le cul. Donc voilà des détails comme ça qui font qu'on passe à côté de beaucoup de choses dans ces histoires qui ont été écrites par des gens qui viennent de Normandie, qui viennent de régions complètement différentes, et voire des États-Unis. Alors ils se sont intéressés à ce qu'on appelle l'histoire en général, c'est-à-dire ce qui peut être mis en date, ce qui peut être considéré en événement, en comportement, mais l'explication derrière, elle n'est pas donnée. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est voir comment Freinet devient Freinet, et comment cette pédagogie peut naître dans un petit village de Garce, où en principe on ne va pas à l'école au-delà de 13 ans, 14 ans, 13 ans à l'époque. Et à 13 ans, ben, ma foi, on va en apprentissage, on est passé dans une maison où, pour faire de l'artisanat, du commerce ou dans les champs tout simplement. Et lui, il n'est même pas l'aîné. Il a été poussé par la famille alors qu'il est le second. Joseph est plus âgé que lui. Et c'est le hasard. Il a été bon élève, forcément, dans une école qui ne l'intéressait pas vraiment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux... Comment aborder ? Alors, simplement, mon point de départ, parce qu'au départ, moi, je suis cinéaste. C'est-à-dire que le stylo, c'est pas mon domaine. La littérature, c'est pas mon domaine. Je fais des films depuis longtemps. Et en 2017, est sorti un bouquin que j'ai pas amené, parce que pour des questions de poids, d'Emmanuel Saint-Fuchien, un historien très diplômé. Est-ce que quelqu'un l'a lu ? Emmanuel Saint-Fuchien, Freinet, un pédagogue en guerre. Alors là, ça m'a horrifié, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur des archives. Or, je m'intéresse aux archives, mais qu'est-ce qui reste dans des archives ? Essentiellement des archives administratives. Et là, moi qui ai été sanctionné par mes inspecteurs pendant pratiquement toute ma carrière, si vous allez chercher mon dossier aux archives administratives, je vais regarder, vous ne trouverez pas le nom de Freinet. Donc je n'ai jamais exercé de pédagogie Freinet dans mes classes. Donc, je l'ai fait depuis le premier jour de mon enseignement. Donc voilà, quand on travaille exclusivement sur ce type d'archives, eh bien on n'a que les sanctions, on n'a que les rapports de police, et là c'est édifiant. C'est absolument ahurissant. Et il a travaillé pratiquement exclusivement sur ses archives. Alors qu'il avait quand même... il n'a jamais voulu rentrer dans une classe pour voir ce qu'était la pédagogie Freinet. Il le dit déjà d'emblée dans son bouquin. Donc j'ai commencé par faire un article pour dénoncer la démarche. Et puis là, les copains du mouvement de l'association des amis de Freinet m'ont dit « Bon, bah, tu pourrais peut-être en faire un peu plus. » Et j'en suis arrivé, à force de faire un peu plus, en 2 ans... à écrire un bouquin. Donc voilà l'origine de ce livre. Et je continue parce que je me suis pris au jeu. Et dans le livre, vous avez en permanence des renvois à le site des Amis Freinet dans lequel je rajoute à chaque fois des éléments. Donc maintenant, il fait le bouquin. bouquin fait presque 600 pages, à force d'ajouts, avec des films et avec tout ce que je peux avoir et qui peut compléter le livre. Et je continue actuellement, j'en ai encore mis avant-hier, de nouveaux documents. Donc voilà. Alors maintenant, comment s'est construit Fresnel? Alors d'abord, Garce. Qu'est-ce que c'est que Garce? Garce, c'est un petit village. Quelqu'un y est allé? Région de Saint-Auban, dans l'arrière-pays niçois, de l'autre côté de la frontière du Var, donc, qui n'était pas en Italie, qui était dans la partie française, mais village dans la montagne et dans lequel on ne parle pas français. On ne parle même pas le provençal, on parle le garo. Donc, qui était un dérivé du provençal, mais en autarcie, ça veut dire qu'il n'y a pas de route, des chemins. On se promène avec le char à banc. Lorsqu'on doit aller au marché, lorsqu'on doit vendre, faire des échanges, on vend de la lavande en particulier, ou de l'essence de lavande, puisqu'il y a Grasse qui n'est pas loin, on peut transformer en parfum. Donc il y a quand même une communication vers l'extérieur, mais le gros événement, c'est un jour au Solat, le député, pour se faire élire, qui vient avec sa voiture. Et c'est la première fois qu'on voit une voiture dans le village. Avec jamais vu de voiture. Donc c'est complètement fermé. Complètement fermé. Avec la falaise, vraiment, au bout du village, il y a encore des maisons troglodytes. Donc c'est vraiment un endroit, si vous avez l'occasion d'aller dans cet arrière-pays, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et comme ils sont en autarcie, quand je dis autarcie, ça veut dire qu'il y a absolument tout sur place. Il y a 3-4 moulins dans lesquels on fait de la farine. On fait au départ, on battait le chanvre, donc on faisait soi-même ses propres tissus. Il y a une épicerie, il y avait une auberge, il y avait la mercerie, le tabac, le forgeron, le maréchal-ferrant qui était... avec le forgeron, il y avait le rebouteux, il y avait la coucheuse qui était la mère de Fresnel, voilà. Et le curé, bien sûr. Alors la vie dans cette, on communique avec l'extérieur pour vendre la lavande, la laine. Donc il y a les élevages de moutons, brebis. La laine, donc on fait les fromages de chèvre, mais qui sont en général consommés sur place. On a quelques vaches, mais bon, c'est pas tellement la région, ça s'y prête pas. Et on va vendre quelques produits pour pouvoir vivre. Donc on va à Grasse, ça fait 4 ou 5 heures à pied. Tout se fait à pied, bien sûr. Pourquoi Grasse, alors que ce n'est pas la ville la plus proche, parce que c'est relié administrativement à Grasse. L'autre côté était l'autre côté italien, donc on n'a pas cette tradition, puisqu'il fallait passer de l'autre côté de la frontière, donc Grasse. Et là, on est dans le monde des parfumeurs, donc capitalisme, exploitation à fond... les femmes dans les champs, et puis souvent des horaires absolument épouvantables. Et par contre, de l'autre côté, sur Puget-Théniers, c'est là que passe le train. Donc on y va pour se rendre à Nice, on y va à pied toujours, char à vent. Et là, par contre, alors, Grasse, il y a quand même une partie qui est socialiste, radico-socialiste de ce qui correspond à l'époque. Et Garce est dans cette partie-là. Donc Garce, on vote à peu près 60% plutôt gauche. Par contre, Puget-Théniers, c'est le domaine de Stackelberg, c'est le domaine des libres penseurs durs. C'est eux qui ont fait mettre, pour l'anniversaire de Blanqui, ils ont commandé à Mayol la statue La Liberté enchaînée. Et ils n'ont pas pu l'avoir pour l'anniversaire, parce qu'il a fallu quand même a sculpté, mais 3 ans après, il a été installé dans la ville. Ils l'ont mise à côté de l'église, sur la place baptisée Place de la Liberté, pour qu'elle soit bien visible quand on rentre à l'église. Et en plus, il y a derrière l'église, il y a la fabrique de pâte. Donc, de toute façon, si vous allez à l'église, vous passez à côté de la statue. Si vous allez à la fabrique de pâte, vous passez devant la statue. On ne peut pas la manquer. Gros scandale du curé, qui évidemment ne peut plus faire son catéchisme parce qu'on ne peut pas montrer cette statue nue, enfin nue, là, enchaînée, aux petits-enfants du catéchisme, et qui proteste, qui demande à la mairie de la faire déplacer. Il faudra attendre 1923 pour qu'enfin on la déplace et qu'on mette le monument aux morts à la place. Mais en attendant, le curé était obligé de faire passer les petits-enfants par le clocher, par une porte sur les côtés. Il passait derrière l'autel. Et là, qu'est-ce qu'il voyait ? Eh bien, il voyait la Vierge au sein nu. Parce que là, le tableau de Rosen, à ma foi, il ne faut pas le toucher, puisque lui, il est sacré. Voilà l'hypocrisie dans laquelle on se trouve. Alors, forcément que ça suscite des tensions, et l'anticléricalisme, là, c'est vraiment très, très tendu. Alors, après, ben, je passe, moi, à des hypothèses. Comment Freinet est devenu un anticlérical alors qu'il faisait il allait à la messe quand il était petit, il a été baptisé, ben, bien sûr, il a même été enfant de cœur. Et dès qu'il a, juste après la guerre, il fallait pas lui parler des curés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, on n'a pas de traces, on est obligé de supposer les choses. En 1906, il y a une grève qui... Donc là, je vous montre ma démarche, en fait. Je ne vais pas la donner pour tout, mais elle est expliquée dans le bouquin sur d'autres périodes. 1906, grève de l'usine de pâte à...
Juste, il y a quel âge à ce moment-là? Pour resituer un peu son... Parce que dans l'explication, il dit besoin d'avoir l'âge de Freinet.
L'âge de Freinet, il est né en... Donc il a une dizaine d'années quand on situe ces événements. Et grève à l'usine de pâte, de Grasse, pardon, l'usine de pâte de Grasse, on va y arriver. Pourquoi l'usine de pâte est importante? Parce que c'est vraiment la base de l'alimentation. On en met en vermicelle dans la soupe, on mange des pâtes absolument pratiquement à tous les repas. Et donc dans la boutique, il faut alimenter la boutique en pâtes. C'est le père qui va chercher les pâtes régulièrement à Grasse pour pouvoir les vendre dans la boutique que tient sa femme et qu'il tient lui-même en partie. Et donc, grève à l'usine, et à ce moment-là, venait d'ouvrir en 1906 l'usine de Puget-Théniers, donc qui est de l'autre côté, le côté italien, qui n'est plus italien, mais enfin de tradition italienne. Et là, Freinet dit que vraiment, enfin, il raconte dans plusieurs textes, qu'il passait son temps à garder le char à banc devant cette statue, et donc à côté de l'usine, et que c'était très long. Or, acheter des pâtes, ça ne demande pas autant de temps que ça. Et c'est au moment des grands conflits, donc je peux supposer que le père devait quand même passer son temps à discuter politique, puisqu'il votait, et donc... Alors, anarchiste, certainement pas, mais il y avait déjà des idées politiques, et ça, pour moi, ça justifie ce que deviendra Freinet par la suite. Donc voilà au niveau des anecdotes, si vous voulez, et ma démarche a toujours été celle-là, c'est essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que... Alors pour ça, quelle a été ma démarche? Je me suis servi des archives, puisque je les alimente moi-même, donc avec le fonds Portier en particulier, puisque c'est moi qui l'ai récupéré, et avec Jourdanet, on l'a placé aux archives départementales à Nice. Mais donc ces archives-là, bien sûr, je m'en suis servi. Mais ce qui m'a intéressé quand même, c'est si les gens votent à gauche, c'est donc qu'ils en discutent. Comment est-ce qu'ils peuvent en discuter ? Personne dans le village, ce n'est pas les paysans qui vont acheter le journal. Mais il y a un notaire. Depuis au moins les années 1850, je n'ai pas réussi à trouver le début, mais bon, on doit pouvoir le trouver, c'est parce que je n'ai pas cherché. Hein. Donc, Donc, il y a... Et puis après, je me suis posé une question, qu'est-ce que faisait ma grand-mère, parce que je suis dans un milieu aussi assez pauvre, qu'est-ce que faisait ma grand-mère quand elle épluchait ses légumes? Elle épluchait, il n'y avait pas le journal à la maison, mais les légumes étaient emballés dans des journaux. Donc, elle lisait toutes sortes de journaux en épluchant les légumes. Dans quoi la mère de Freinet emballait ce qu'elle livrait, ce qu'elle donnait? À l'époque, je ne vois pas autre chose que le journal. On ne va pas acheter du papier, on n'a pas des petits sachets, on n'a pas autre chose que le journal. Donc le journal, forcément, circulait dans le village. Alors ça, les historiens ne vous le diront pas, forcément. Donc à partir du moment où il y a un vote, à partir du moment et les conflits dans le village, et bon, les informations circulent. Il y a le garde champêtre qui fait aussi les informations. Alors là, c'est le petit potin de la région, mais le garde champêtre fait ses annonces régulièrement dans les deux places du village. Donc il y a une information qui circule. Ensuite, on va sur le marché. On va sur le marché, on discute. Il y a un bistrot. Donc on discute aussi. Donc on discute dans la boutique, on discute dans le bistrot. Et pendant que les dames sont à la messe, les messieurs, ils arrivent en général assez tard. Donc il y a forcément une circulation d'informations. Autre point qui m'a... Là-dessus, je me suis intéressé aux journaux, c'est-à-dire que j'ai lu, je ne peux pas dire tous les journaux, parce que dans Nice, en 1905, il devait y avoir à peu près 80 journaux dans Nice. 100 sur la Riviera. Sur les 80, il y avait probablement 20-25 journaux anarchistes qui ne restaient pas, parce que parfois c'était juste pour le temps d'une élection, donc on voulait absolument descendre un bonhomme ou en valoriser un autre, mais à ce moment-là, il y avait le journal qui sortait et qui disparaissait après. Tous ces journaux, il est extrêmement difficile de les trouver. Mais j'ai pu en retrouver un certain nombre. J'ai lu presque systématiquement le journal le plus lu à l'époque, qui était le Petit Niçois, qui était centre-gauche, avec parfois des choses étonnantes. Il ne loupait pas une grève. Toutes les grèves étaient racontées. Toutes les réunions syndicales ou amicales, puisque les syndicats n'étaient pas autorisés en général, donc c'était des amicales. Alors, les amicales, on trouve de tout. Y compris ce qui va devenir du syndicalisme. Donc tout ça, c'est raconté dans le Petit Niçois. Donc ça m'a permis aussi de reconstituer, j'ai commencé à le lire de manière presque systématique de 1896 à la Deuxième Guerre. Donc ça m'a permis aussi de comprendre quelle pouvait être la vie de, et puis alors les journaux anarchistes, c'est là que j'ai le plus de problèmes, parce que, et actuellement je travaille, donc s'il y a des gens qui peuvent m'aider, je suis très intéressé, sur Stackelberg, parce qu'il a un parcours qui est politique, qui est similaire à Freinet, ils ne se sont certainement pas connus, enfin, j'ai aucun élément qui me permet de le dire, mais le parcours est très très proche, et ça permet de comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête des gens à ce moment-là. Donc je suis en train de faire des recherches sur Stackelberg.
Dis deux mots sur Stackelberg, parce que je ne pense pas qu'on le connaisse dans nos milieux. Dis quelques mots qui servent.
Quelques mots sur Stackelberg. Stackelberg, il est donné de nationalité russe, mais il est balte. Balte d'origine. Alors, comme les grands anarchistes russes de famille, il est baron. De famille noble, c'est normalement de Stackelberg, mais il ne voulait pas dire le de, bien sûr. Parce que... donc voilà son origine, et puis en rupture de famille, comme tous les autres. Il a beaucoup voyagé, et puis sa mère s'est installée à Nice, parce que Nice, c'était très recherché par les Russes à la fin du 19e siècle, et il se retrouve là. Donc il est né vers 1850, les chiffres, j'ai eu un mal fou, 1850 à peu près. Il est mort en 34. Il vient s'installer là, et puis là il tombe amoureux de la région, et il veut absolument devenir français. Mais il est anarchiste. Donc c'est difficile. Il a été expulsé à plusieurs reprises, et il écrit dans... dans des journaux anarchistes jusqu'au moment où il est expulsé. Et la deuxième expulsion, là, on lui dit clairement, et là j'ai réussi à trouver le document dans les archives ici, on lui dit clairement, la préfecture lui dit clairement que s'il recommence, ça sera définitif et il ne pourra plus revenir en France. Or, il veut être français, il a demandé à être nationalisé, la nationalité française, et à partir de ce moment-là, et c'est là mon problème, à partir de ce moment-là, il écrit des vagues trucs dans des journaux socialistes, mais il écrit sous pseudo dans les journaux anarchistes. Donc il y a un dédoublement de la personnalité, mais les pseudos, je ne les ai pas retrouvés. J'en ai retrouvé quelques-uns, et là, je suis en recherche. Donc je fais appel vraiment à toute personne qui pourrait, pour arriver à savoir. Alors les anarchistes, quand il est mort, on dit que bon, ben, il avait quand même mal viré, mais qu'avec tout ce qu'il avait fait, quand même, on lui rendait un hommage. Je voudrais y voir plus clair, parce que c'est pas si simple. Donc je pense qu'il a été contraint, et c'est un petit peu le vécu de Freinet pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur lequel je reviendrai éventuellement par la suite. Donc voilà pour deux mots pour Stackelberg. Mais je suis en recherche, bon, je commence à trouver pas mal de choses, et on a trouvé quelqu'un, une descendante de la famille, donc qui nous aide actuellement. Et c'est vrai que c'est pas facile du tout, parce que les journaux ont disparu, et ben ça, tu en sais quelque chose, hein, sur les anarchistes de cette période autour de 1900, les journaux ont disparu, on a un mal fou à reconstituer, parce que les familles ne sont pas toujours très fières, où il y a eu quand même les périodes difficiles, ce sont souvent des étrangers donc qui sont traqués, et dès que la police commence à les chercher, ben, on détruit les documents parce qu'il y a vraiment un danger. Freinet, par exemple, je m'occupe des archives, mais les archives les plus difficiles à trouver, c'est les archives de Freinet lui-même. Pourquoi ? Ben, parce que quand en 40 il est arrêté, il a immédiatement demandé à Élise, tu brûles tout. Ben oui, parce que ça devenait extrêmement dangereux. Parce que non seulement lui était compromis, mais il y avait tout le réseau derrière. Donc tous les courriers, il dénonçait absolument l'ensemble du mouvement par les archives. Donc on a très peu d'archives, les archives qu'on a, c'est celles qui ont les écrits de Freinet envoyés à l'extérieur, dans d'autres régions. Donc on a le même problème pour les anarchistes du début du siècle, et j'imagine la même chose. Moi, je suis en train de faire une recherche actuellement sur les origines du mouvement espagnol, Freinet espagnol, et ma tête. Alors, on a le même problème, parce qu'il y avait Franco, et ils n'avaient pas intérêt à garder leurs archives, donc où on les cachait vraiment, et là, on commence à retrouver vaguement des choses, mais en général, c'était brûlé. C'est trop dangereux. Alors, autre élément qui m'a intéressé, parce que moi, je ne suis pas de la région, mais un autre élément qui m'a intéressé, c'est essayer de comprendre ce que sont les Alpes-Maritimes, parce que c'est quand même pas triste. Et là, je me suis lancé dans des recherches que je n'avais pas prévues au départ, mais moi qui ai horreur des dates, je vais quand même faire un... Où est-ce qu'ils sont? Voilà. 1792, la Convention décide d'intégrer le comté de Nice dans la France, à la demande, dit-on, dans les archives, des habitants du comté. Donc, c'est devenu les Alpes-Maritimes. La frontière, c'est à peu près le Var à l'époque, et toute la partie tendre n'est pas encore intégrée, il y a toute la partie de la Roya qui est encore en Italie. Donc ça, c'est demandé en 92, et en 93, le 4 février exactement, Nice devient intégré à la France. Mais entre le 9 et le 29 mai 1800, il y a Bonaparte qui décide d'envahir l'Italie. Alors là, le comté n'est plus d'accord du tout, et repasse dans le Piémont Sardaigne. Donc là, pendant un peu plus d'une semaine, on repasse de l'autre côté. 1814. Oui, donc là, on est revenu en France en 1800, après la dizaine de jours, et puis Victor Emmanuel, 1814, reprend le comté avec Monaco. 48, Louis-Napoléon se lance dans les campagnes d'Italie et va aider les Italiens, et à partir de là, commence à s'intéresser au comté de Nice. En 1849, Napoléon va secourir le pape, et à ce moment-là, Garibaldi combat contre Napoléon, parce que Garibaldi, anti-papauté, anti-clérical, libre-penseur, tout ce qu'on a, et il s'agit de réduire la papauté. Donc là, il est contre Napoléon. Mais en 1850, commence dans le comté un parti qui demande le rattachement pro-français, qui demande le rattachement du comté à la France. En 1951, coup d'État, Napoléon III reprend la couronne. Donc on n'est plus républicain. Donc ceux qui demandaient le rattachement à la France demandaient le rattachement à une république, mais maintenant ce n'est plus une république, donc on ne peut plus se demander le rattachement à la France. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, parce que quand les historiens nous présentent Nice comme la France et racontent l'histoire de Freinet comme étant un habitant de la France, c'est un non-sens complet. On est là dans le délire complet, et les gens ne savent plus où ils en sont. 57, le train arrive à Nice. Donc le tourisme commence. Donc on commence à voir toutes les têtes couronnées qui arrivent à Nice. Ça ne plaît pas aux républicains. 58, Villefranche est concédée à l'Empire de Russie. Donc les Russes ont maintenant leur armée là, l'empereur débarque, toute la cour va commencer à s'intéresser à Nice, à Villefranche. Donc, il va falloir construire, parce qu'il faut loger tous ces gens-là. 59, c'est la guerre contre les Autrichiens. Alors là, Napoléon va aider pour l'unité italienne, pour repousser les Autrichiens, et va se retrouver aux côtés de Garibaldi, qui repousse les Autrichiens. Garibaldi, qu'il avait combattu quelques temps avant. Et 60, c'est le plébiscite. Alors bon, quand on est à 93,6% pour le rattachement à la France, tout le monde se pose des questions. Tout le monde se pose des questions. Et à partir de là, ma foi, on retrouve à peu près la réalité d'aujourd'hui à Nice. Vous avez les francophiles, toute une catégorie de personnes. Vous avez les séparatistes qui veulent revenir à l'unité italienne. Et puis vous avez derrière les garibaldiens, qui eux, Garibaldi, lui, s'est intéressé à une seule chose, c'est la République. Il est républicain avant tout. Donc s'il s'est allié avec Victor Emmanuel II, c'était vraiment pour une bataille précise, mais il ne veut pas d'une Italie avec un roi. Ce qu'il demande, lui, c'est l'indépendance du comté et qu'il soit reconnu par l'Europe. C'est extraordinaire. Et ça, en 1860, et puis... avant 1860, puisqu'il est mort, mais le comté... Non, il est encore vivant. Et le comté devait être indépendant. Et on retrouve, aujourd'hui, ces clivages encore dans la région. Et puis... maintenant, il y a la question du tourisme que j'ai évoquée. C'est qu'à partir du moment où le train arrive, les hôtels vont se multiplier, il faut loger tous ces gens-là, il y a le tourisme, donc il faut une main-d'œuvre. Et à Nice, la main-d'œuvre n'est pas suffisante, donc on va avoir les frontaliers qui vont rentrer, qui vont pour un certain nombre s'installer. Arrive la guerre de 14, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on est mieux servi en France parce qu'on gagne davantage d'argent, donc il vaut mieux qu'on s'engage du côté de la France plutôt que de l'Italie. Et puis après, il y a en 1909 un événement dont on ne parle pas beaucoup dans les livres d'histoire, c'est le tremblement de Messine. Où là, c'est un tremblement de terre de Messine, où là, il y a une catastrophe vraiment très, très, très importante. Et les journaux de Nice, Petit Niçois compris, demandent à la population niçoise d'accueillir des Calabrais. Et on va avoir une migration calabraise importante à ce moment-là, avec en plus les guerres d'unité italienne. Bon, il y a énormément il y a une pauvreté, et ces gens viennent à Nice. Et là, on va avoir deux catégories, c'est qu'on a besoin de maçons, mais après la guerre de 14, on va avoir besoin d'agriculteurs. Parce que dans les campagnes, il y a eu quand même pas mal de personnes tuées, et donc il faut les remplacer. Donc on va avoir des Italiens. Alors là-dessus, j'avoue que je ne pourrais pas aller plus loin, parce que cette recherche-là, pour moi, reste à faire. C'est, quand on dit les Italiens, ce ne sont pas les mêmes, les Calabrais, les Ligures, ce ne sont absolument pas les mêmes. Ils ne faisaient pas les mêmes métiers, et j'avoue que je peine, c'est encore une des recherches. Je me suis pris au jeu, parce qu'au départ, je ne suis absolument pas là-dedans. Je me suis pris au jeu, il y a encore des recherches à faire de ce côté-là. Freinet est condamné, je ne sais plus quelle année, est condamné pour avoir embauché un immigré italien, clandestin. Donc là, il a une amende à payer, mais il le garde quand même, bon, parce que ça a été négocié. Donc tout ça, ça fait partie de ces... Et c'est ce qui fait la difficulté pour comprendre le fonctionnement de cette région très particulière qui n'est pas la Bretagne, qui n'est pas la France. Et pour revenir à Emmanuel Saint-Fuchien, le bouquin dont je parlais tout à l'heure, ce qui était effrayant, c'est que voilà un historien de HESS, donc le sommet de l'université en France, qui a des difficultés en ce moment, mais bon, qui est considéré comme le sommet, qui, sans hésiter, nous dit « Freinet, c'est la même chose que Delvert. Delvert, c'est un prof qui a été agrégé et qui enseignait Henri IV à Paris, qui était capitaine pendant la guerre de 14, mais tous les deux ont été blessés en 14, donc il compare les deux, et il nous fait l'histoire de Freinet à partir de celle de Delvert, qui n'a absolument aucun rapport. Donc voilà la difficulté à laquelle on se heurte, et qui fait que... Bon, ben, j'essaie d'écrire une autre histoire à partir de là.
Après, excuse-moi, le village de Freinet, la Garce, il était du côté de Nice ou du côté français ?
Français.
Oui, d'accord, mais il a la limite. Quoi.
Il était à la limite, mais après, je vais peut-être un peu trop vite et un peu. Il s'est trouvé. C'est à la limite, mais en fait, avec la migration italienne, ils se sont trouvés complètement à avance. On vote Garibaldi. 30%, je crois, 26 ou 30%. Ce n'est pas normal, puisque c'est pas la région de Garibaldi, c'est pas du tout son... Et pourtant, on a encore voté pour lui. Alors qu'à Grasse, ça n'intéresse personne, il n'est pas connu. Donc on est dans une espèce de nomad's land. Dans cette partie-là, le Garce, c'est pratiquement à la frontière de ce qu'on appelle les Basses Alpes, les Alpes de Haute-Provence. On y va à pied, c'est juste derrière. C'est à côté des Alpes-Maritimes, et c'est le Var est tout près. On y va à pied aussi. On va chercher l'huile dans le Var à pied.
Est-ce que tu as une hypothèse sur ce qui l'a amené à démarrer comme enseignant ?
Alors, qu'est-ce qui l'a amené à démarrer comme enseignant ?
Donc, par rapport à ta démarche, justement, qui l'aurait...
On va envoyer là-dessus. Oui, non, mais je préfère comme ça, parce que je vous ai dit, je ne fais pas une conférence, ça paraît peut-être décousu ce que je dis, mais c'est en même temps pour expliquer une démarche. Alors, qu'est-ce qui l'a amené à être enseignant ? Ben, il est probablement bon élève. Bon, personne n'en parle, donc la seule chose, c'est qu'il est poussé par son ancien instit. Alors là, pareil, pour les anecdotes, c'est assez extraordinaire, parce que l'ancien instit, j'y reviendrai éventuellement. Il est poussé par son ancien instit, qui a été obligé de quitter Garce. Je le dis quand même, il est obligé de quitter Garce, parce que sa femme, elle a fauté avec le curé. Et que dans sa classe, il a la fille, qui est la fille du curé, qu'il bat alors presque jusqu'au sang, parce qu'à l'époque, c'est la trique et tout. Et finalement, il est obligé de partir. et donc il demande sa mutation à Grasse. Et c'est lui qui va surveiller Freinet, le jeune Célestin, le fils, et qui va dire aux parents que, bon, ben, ma foi, il faut le pousser, il faut l'envoyer à l'école normale. Et donc, à partir de là, normalement, il aurait pas dû y aller, mais il va rentrer dans l'école normale. Donc, c'est le seul élément qui nous laisse penser qu'il était bon élève, puisque c'est son instinct qu'il a sorti que lui. Enfin, d'après ce qu'on connaît. Donc, il a fait l'école normale, à partir du moment où il faisait l'école normale, mais il devenait enseignant.
Et ses parents ont validé ça aussi.
Les parents, oui. Complètement. Alors qu'il n'était pas obligé de le faire, mais le père était lettré. On sait qu'il écrivait parce qu'il écrivait. On a retrouvé des lettres quand Freinet était sur le front dans la première guerre. Il recevait des lettres de son père. Donc le père savait écrire et bien. Quoi. Donc il avait été à l'école. Alors là, brouillard complet, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais rien. Est-ce que les recherches. Maintenant, on n'a plus de témoins, maintenant j'arrive un peu tard. On trouve encore quelques personnes qui peuvent parler de cette vie-là parce que c'était la famille, mais les survivants, il n'y en a plus. Donc là, je ne peux pas monter très loin. Donc c'est comme ça qu'il est devenu instite. Et donc il a fait l'école normale. On sait peu de choses sur ses études à l'école normale, sinon que là il commence à en parler un peu plus en disant que il avait des profs intéressants, mais il y en avait d'autres, c'était pas intéressant du tout. Mais voilà, il avait quelques profs. Et surtout à l'école normale, il rencontre, il se fait un copain qu'il gardera longtemps, c'est Baptistin Geoffrey, et qu'on va retrouver dans les publications anarchistes par la suite. Donc, et qui est resté son ami, avec qui il correspondait pendant la Première Guerre mondiale, qui est venu quand il a été blessé, qui est venu le voir et qui l'a aidé et qui l'a soutenu quand il a été condamné à partir de 32 à Saint-Paul-de-Vence. Enfin, Saint-Paul à l'époque. Donc voilà. Alors après, je ne sais pas, je passe à quoi.
Le bon sens. Comment ça explique ton titre, tu peux expliquer?
Explique.
Le bon sens, voilà, comment ça vient en fait?
Alors, le bon sens, allongé sur le bon sens, oui. C'est le bon sens, c'était amusant parce que quand j'ai parlé du livre. Pour faire de la publicité aux Espagnols, on s'est trouvé devant la difficulté à traduire le mot bon sens. Parce qu'en espagnol, ils me disaient, c'est le sens commun. Ben oui, non, mais c'est pas le sens commun du tout. C'est pas du tout ça. Et le bon sens, c'est probablement l'expression la plus utilisée par Freinet. Depuis pratiquement les premiers écrits. On le retrouve partout dans ses articles, dans ses livres. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le bon sens lui-même? Le bon sens, c'est le bon sens, il est paysan d'abord. Moi, ce qui m'a frappé et ce qui m'a permis de peut-être d'argumenter dans ce sens, sans jeu de mots, c'est. J'habite dans l'arrière-pays niçois. Et je longe le Var. Et depuis, quand est-ce que ça a commencé? Il y a 3 ans, on a commencé à voir les bulldozers pour transformer le Var, pour faire passer la voie de chemin de fer au milieu du Var, pour faire une zone industrielle dans le Var. Et évidemment, le Var, il se fâche et il a tout balayé. Et l'année suivante, on a encore vu les bulldozers arriver et recommencer à faire des digues dans le Var, et puis au mois d'octobre, le Var s'est fâché et il a tout effacé. Le bon sens, c'est d'abord, et c'est ça chez Freinet, c'est-à-dire que si ces gens-là, ingénieurs venant de je ne sais trop où, soutenus par un certain Ciotti, s'ils avaient de me poser des questions aux riverains, bah, c'est simple. Ils auraient répondu surtout, surtout, ne mettez pas de bulles dans le Var, parce qu'il lui arrive de se fâcher. Il y a la montagne derrière, et il suffit qu'il y ait des grosses pluies au moment de la fonte des neiges, et puis alors là, le Var, il déborde. Donc, il est impossible de faire des digues à cet endroit-là, c'est absolument impossible. Voilà, il faut vraiment faire des murailles, et à ce moment-là, on va l'accélérer, et je ne sais pas ce qui va se passer dans Nice, parce que c'est Nice qui va être complètement submergé. Donc, le bon sens, c'est ça, c'est-à-dire que.
Ben, c'est pas ça, pour lui, le bon sens.
Oui, non, mais cette réflexion-là, si tu veux. C'est cette réflexion-là. C'est-à-dire que. C'est, d'abord, le paysan, la première chose qu'il fait, c'est observer. C'est. Il tient sa culture de l'observation. On observe les animaux, le comportement des animaux, on observe les plantes, on observe, et c'est à partir de ça qu'on va agir. Mais ça ne s'oppose pas, contrairement à ce que nous font dire les universitaires, ça ne s'oppose pas à la science. Au contraire, la première des vertus du scientifique, selon Freinet, il ne me dit pas dans ses termes, mais ben c'est moi comme ça, c'est comme ça que je le traduis, c'est précisément d'avoir du bon sens, c'est-à-dire d'observer la nature, d'observer et de questionner avant, de prendre des décisions et de faire des plans qui vont modifier le Var. Le bon sens, c'est les constructions, les catastrophes que vous avez pu voir à la télé sur la Vésubie. Ben quand on construit sur du sable au bord d'un torrent, même si pendant 50 ans le torrent n'a pas encore renié tout, ben, au bout d'un moment, évidemment, la maison tombe. Donc elle ne tombe pas tout de suite, mais elle finit par tomber. Donc c'est ça, c'est d'abord l'observation, partir. Et comment ça se traduit dans l'éducation? Ben, tout simplement, je ne viens pas pour faire un cours, je viens d'abord, j'observe le gamin. Et je vois comment je peux aborder les choses avec lui, comment je peux le faire travailler. Mais c'est d'abord à partir de lui, c'est pas à partir de moi. Et ça va se traduire dans sa pédagogie, c'est la base même. C'est partir du milieu, partir de l'enfant, c'est d'abord s'adapter, l'adaptation, c'est la première des choses. D'autres relances, questions, alors j'ai quoi
tu évoquais tout à l'heure le fait qu'en 32 ou 33, il y a eu l'histoire de Vence, où il y a Saint-Paul de Vence, et où était son bon sens alors?
Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à... Je vais remonter en arrière quand même, parce que c'est là qu'il y a bon, des raisons historiques à ça. Lorsque les Italiens sont arrivés en masse, et en particulier les Calabrais, ça avait commencé avant, ça a commencé à peu près autour des années 1885-86, quand on a commencé à avoir vraiment besoin de main-d'œuvre italienne, donc puisqu'elle était de l'autre côté de la frontière, dans ces années-là, il y avait déjà eu le procès de Lyon des anarchistes, et il y a eu ensuite 91-92, les dates, allez, moi je suis fâché, donc ne les notez pas.
Caserio,
c'était la période Ravachol et Émile Henry. Donc il y a une panique complète au niveau des préfectures et des ministères, c'est que la région de Nice est forcément infestée d'anarchistes. Et à partir des années 80, donc ça c'est pas officiel, mais on commence à le faire, ça sera officiel à partir de 22. Mais à partir des années 85-86, on commence à aller vérifier dans les hôtels qui vient, on fait des listes, et les journaux s'en emparent aussi, c'est absolument ahurissant, tous les journaux font des listes de tous les visiteurs. Donc vous pouvez savoir absolument tout. Au début, je croyais que c'était uniquement les cours d'Europe, mais non, c'est pas ça du tout, on veut lister, on veut savoir qui vient, qui rentre, donc tous les clandestins, il faut absolument tout savoir, parce qu'il y a forcément des anarchistes là-dedans. Et à partir de là, on espionne tout le monde, Et ce qui est terrible, c'est que les préfets ne sont pas équipés pour ça. Donc ils envoient des gens qui sont complètement incultes et qui ne savent pas ce que c'est qu'un anarchiste. Donc à partir de là, on peut tout imaginer. Et bon, ils en ont recensé 97, je crois, en 1921, qui étaient dans une assemblée, mais celui qui était là, qu'est-ce qu'il a recensé exactement? Donc on ne sait absolument pas combien il y avait effectivement d'anarchistes de vrais qui se revendiquaient comme tels. Mais c'est la panique. Et à partir de 17, ben, en plus, il y a la révolution d'octobre. Donc là, on confond les anarchistes et les communistes, tout ça, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux et qui vont boucher les purées et qui vont transformer la France. Donc, il y a une espionnite permanente. Et Freinet, avec son ami Geoffrey, dont je parlais tout à l'heure, semble s'engager politiquement de manière certaine à partir de 1919, de manière probable déjà en 18. Quand il est à l'hôpital, il se pose des questions vraiment sur comment il a pu se faire avoir, parce qu'il est parti en guerre, lui, mais alors comme tout le monde, on va aller renvoyer les Allemands chez eux, puisque tout le monde croyait qu'on allait renvoyer les Allemands chez eux, puis bon, en 17, quand il s'est ramassé une balle dans le dos, il se pose de sérieuses questions. D'abord, pourquoi il était dans le dos, alors qu'il était, il était face aux Allemands. Donc ça, il ne le dira jamais, mais il y a un problème, il y a un sérieux problème. Parce que, bon. Et puis, donc à partir de là, à partir de 19, il est surveillé. Et on a des preuves à partir du moment où ça devient officiel, c'est-à-dire en 21, la préfecture déclare qu'il y a véritablement un corps de. Je ne sais plus comment ils appelaient. Enfin, de personnes qui sont chargées d'aller surveiller toutes les réunions communistes et anarchistes qui pouvait se produire à l'époque. Donc il est surveillé à partir de là, et on commence à avoir des rapports. Alors les rapports, c'est ahurissant. C'est... je crois que j'en avoir un sous la main, parce que... Un rapport qui est donné en 34. Donc c'est le ministère qui écrit ceci. Je ne crois pas à l'existence, alors c'est de long, hein, simplement un passage que j'ai retenu. Je ne crois pas à l'existence d'une cellule communiste à Saint-Paul. Il semble bien que Freinet reçoive des individus suspects qui viennent le voir en motocyclette ou en automobile. Par contre, monsieur le maire de Saint-Paul signale qu'un camion aurait été récemment déposé chez l'instituteur à 3 heures, des malles très lourdes, et j'ajoute que certains avaient prétendu que celle-ci contenait des armes. Je n'ai pu avoir aucune confirmation. Le groupement anarchiste espagnol que Freinet dirigerait avance était l'objet de mon rapport en date de 32, complété par celui du 21 décembre suivant, dans lequel j'ai défini les relations existantes entre ces étrangers et lui. Il s'agit de théoriciens anarchistes, végétariens et ludistes en même temps, qui se tiennent tranquilles et ne se sont jamais occupés de politique. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce rapport-là, il y en a qui ont précédé, depuis 21-22, j'en ai trouvé un certain nombre, et j'ai continué à chercher après. Alors là, on suppose que, on dit que, on a pensé que, on n'a pas vérifié que, dans le rapport suivant, c'est déjà, on sait que. Et puis, en 40, c'est, on est sûr que. Quand l'armée s'empare des rapports, la préfecture, il y a encore un petit doute. Et après, c'est l'armée qui va s'emparer de ça. Et là, on est certain que, on a vu que, on constate que, on a déclaré que. Et c'est ce qui fait qu'il est resté encore pendant de 40 à d'octobre, de mars 40 à octobre
41. Il était où
en camp? Où était le camp?
Où était le
camp? Alors, il a été à Chibron, qui était un camp pour les communistes. Il a été ensuite, alors Saint-Maximin, mais il n'est pas resté, donc on ne peut pas le compter. Ensuite, il a été Chabanais, c'est du côté de Privas. Et là, alors c'est un camp, je peux faire une parenthèse et répondre plus complètement?
Ouais. On parle dans tous les sens.
Je suis obligé de dire le truc après, alors. Oui, Chabanais, c'est assez étonnant parce que, alors ça fait partie de ces choses qui sont complètement incohérentes, du même ordre que ce que je viens de dire du comté niçois. Chabanais, on y met les communistes. Et puis les anarchistes, parce qu'on ne sait pas faire la différence, bon, ben, voilà, communistes et anarchistes. Mais ils sont tous appelés communistes à ce moment-là. Et là, dans les rapports, on voit que ces camps-là sont quand même très intéressants, les rapports des commandants des camps, parce qu'ils sont tout à fait autonomes. On peut les laisser en liberté, ils reviennent. Donc les portes sont ouvertes, ils sont dans un camp appelé de concentration, mais les communistes peuvent sortir, aller ramasser des champignons, aller voir des copains. Freinet va voir une copine, un couple dans, un peu plus loin, et puis absolument aucun problème puisqu'ils reviennent. Et j'ai eu le même témoignage avec le camp polonais qui se trouve près de Toulouse, parce qu'il y a eu une des responsables du mouvement polonais qui avait son mari qui était prisonnier polonais à Toulouse, parce que, et c'était la même chose. On les laissait sortir, il était considéré communiste, donc on les laissait sortir, et puis ils revenaient. Et, de toute façon, Freinet, alors il y en a qui s'échappaient, mais on ne leur courait pas après. Freinet ne pouvait pas s'échapper, il était trop connu. Donc, où aller, et puis en même temps, il tenait quand même à son mouvement, et il ne pouvait pas disparaître comme ça, donc lui, il est resté. Il a organisé des cours, il faisait des cours de méthodes naturelles en camp. Donc il leur a fait faire, pas de l'imprimerie parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, mais des textes libres, il leur a appris à lire et écrire pour ceux qui ne savaient pas lire. Il a fait faire du théâtre, comme dans son école, quoi. Il a continué l'école dans le camp. Et puis après, il est allé à Saint-Sulpice, où alors là, le camp était bien plus dur.
Mon père était à Saint-Sulpice.
Vous apprendrez. Ouais, non, mais donc là, c'était bien plus dur. Là, il y avait les barbelés, il ne pouvait pas sortir. Alors, il dit qu'au début, ils arrivaient quand même à sortir un peu, mais enfin, très très vite, c'est devenu verrouillé. Et là, c'est devenu très dangereux quand il y a eu les premiers assassinats des Allemands. Où là, la guerre contre la Russie, enfin le front de l'Est, où là les communistes étaient devenus ennemis, forcément, puisque Staline avait appelé à l'insurrection de tous les communistes du monde, et donc à partir du moment où on appelait à l'insurrection des communistes, ils étaient ennemis à l'intérieur de la France, et quand on a commencé à voir le marchandage avec les otages, ben, les premiers otages qu'on pouvait désignés, c'était forcément les communistes, donc là c'était encore dans la partie nord, mais bon, ils commençaient à sentir que ça descendrait très vite dans le sud et qu'ils étaient déjà condamnés à devenir otages au moindre incident. Donc voilà pour Saint-Sulpice.
Yeah.
Vous écoutez Un rayon de soleil sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. On retourne à la conférence sur Freinet, où on s'ira à Marseille.
Mais là, on est sur la seconde alors.
C'est parce qu'il a été arrêté, Freinet.
Non, mais on avait parlé de
17,
au début
de 17. C'était pour
relater
à 32.
C'est la deuxième.
J'ai répondu à la question, c'est pour ça que là, on est dans les.
Parce que c'était.
Voilà, je reviens au début.
Les deux arrestations. Est-ce que c'est les mêmes raisons dans les deux arrestations?
Non, la première guerre, il n'était pas arrêté. Il a fait la guerre. Voilà. Il était à l'hôpital.
Oui,
il
n'a pas été
arrêté
à la première guerre. Il a fait la guerre normale.
Saint-Paul en 1934.
Je reviens à Saint-Paul.
Ouais. L'affaire.
Donc là, on fait encore un bond, mais on revient à l'arrière par rapport à Saint-Sulpice. Et c'est ce qui va justifier Saint-Sulpice, comme je viens de le montrer. Donc l'affaire de Saint-Paul, c'est extrêmement difficile, parce que selon Barré, dans les livres d'histoire qui ont été faits par les gens du mouvement, on met comme point de départ le texte de comment il s'appelle, l'anarchiste, un gamin qui est dans l'école, qui était récupéré à partir de 35-36, ça commençait avant. Donc, il fait partie des Espagnols qui ont été hébergés par Freinet. Oui, parce qu'il est orphelin, donc c'est comme ça qu'il est arrivé là. Et donc, il a raconté, il y avait déjà des tensions dans le village, enfin dans la petite ville, donc, avec la mairie et le gamin raconte un rêve. Freinet leur faisait faire des textes libres, donc les gamins, ils sont libres de raconter ce qu'ils ont envie de faire, et souvent c'était un peu la mode chez les gamins, c'était plus ou pas demander, ni exiger, ni une leçon, ni quoi que ce soit. Bon, il raconte son rêve, et dans son rêve, Monsieur Freinet tue le maire. Alors évidemment, ça a été déclencheur, mais pour moi, c'est pas ça a permis à la mairie d'afficher qu'on faisait des choses scandaleuses dans l'école, Maurras et la Sûre-Française s'en est emparée, enfin bon, et c'est ce qui a été monté en épingle. Mais ce que je viens de montrer, c'est qu'il était déjà affiché depuis 22, et que, bon, il fallait la moindre occasion. Moi, j'étais à Nanterre en 68, mon premier poste, j'avais les cheveux longs. Et heureusement, j'avais un chef d'établissement qui était sympa, qui me montre un jour un décret du ministère disant « si vous avez des cheveux longs dans votre établissement, documentaliste, des cheveux longs dans votre établissement, trouvez un prétexte pour les mettre dehors. » En 69. Donc, on est du même ordre, de ces machins qui se passent par en dessous, et voilà. Donc, il y a un tel dossier sur son dos que, de toute façon, il fallait que ça craque. Donc, il fallait attendre le prétexte. En même temps, il y avait des histoires avec le maire, c'était depuis les années... moi, j'ai trouvé les premières protestations là-dessus dans 1886-87. Les écoles sont insalubres. Et il y a des rapports du SNI encore en 32-33 disant que les écoles dans le midi, c'est absolument infect, il n'y a pas de WC, il n'y a pas d'eau courante, c'est insalubre, c'est moisi, c'est mal chauffé, etc., etc. Et il a demandé au maire de mettre des sanitaires, de nettoyer, etc. Et le maire n'avait pas d'argent pour ça. Et le maire ne pouvait pas, là-dessus, Freinet était soutenu par son inspecteur d'académie, puisque, normalement, ça devait être salut, c'est Jules Ferry qui l'a dit. Donc, il fallait que ça le soit. Et, ça ne pouvait pas être suffisant comme prétexte, donc il a fallu en trouver un autre. Donc, voilà. Et à partir de là, le ministère, le
Bonzi s'en est chargé et puis ils l'ont viré de l'école. Et ils lui ont proposé de revenir. Alors voilà encore un élément que j'ai trouvé mais qui n'est pas dans les livres d'histoire et je voudrais en avoir la preuve maintenant. Mais à ce moment-là, il est nommé dans son premier poste à nouveau. Il n'est pas sorti de l'éducation nationale. Et on le renvoie au premier poste qu'il avait, le poste précédent qu'il avait eu, c'est à Aubard-sur-Loup. Et Aubard-sur-Loup, il pouvait très bien, la mairie l'accueillait, parce que ça s'était très bien passé avant, le maire l'accueillait. Mais je suis tombé, et Freinet n'a pas voulu y aller. Et je suis tombé sur une lettre, un peu par hasard, d'un instit qui était Aubard-sur-Loup, et qui envoyait au préfet une protestation, ne faites pas venir cet individu dans cette école, enfin bon, ça a été le tollé, le tollé, mais le préfet n'a pas voulu cette trace, l'inspecteur d'académie n'a pas laissé de trace là-dessus, je n'ai simplement cette lettre, donc je ne peux pas prouver que c'est ça qui a justifié. Est-ce que Freinet la connaissait? Je ne sais même pas. Possible, je ne sais pas. Donc il a refusé son poste, et à partir de là, il a construit son école de Vence.
Privé.
Donc privé. Oui, mais alors qui a été en prêt, alors pareil les dates dont je suis fâché avec, mais qui a été privé avec des moments où l'État subventionnait plus ou moins, nommait les enseignants, d'autres moments où on lui interdisait de faire quoi que ce soit. Bon, ça a été selon les politiques différentes époques jusqu'en 92 avec Jospin qui a, sur intervention d'Henri Portier, qui connaissait le frère trotskiste Jospin et qui a fait une pression sur Jospin pour qu'il fasse revenir l'école de Vence dans l'éducation nationale, avec un statut spécial. Donc elle est revenue dans l'éducation nationale. D'autres questions?
Est-ce que dans son parcours, de son premier poste, il a changé souvent d'école, et est-ce que ça a construit quelque chose dans sa pédagogie, le fait de changer ou pas?
Non, le premier poste, je dis ça, les historiens n'en parlent pas, c'est assez étonnant.
Je dis ça parce que l'endroit où on se situe dans les écoles joue aussi parfois sur les modes pédagogiques qu'on peut mettre en place parfois aussi. Et donc, est-ce que ça a pu jouer?
Alors, ça c'est une recherche qui me reste à faire. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Parce que c'est... Oui, il y a un autre aspect que je voudrais quand même aborder, c'est la question de Freinet au PC, Freinet anarchiste. Ouais. Quel est le... Bon, c'est quand même... Au départ, c'est pour ça que je suis ici. Je ne vais pas le laisser de côté. Non, mais pour quand même revenir sur les postes, son premier poste... Personne n'en parle, alors pour moi il est extrêmement important. Il a été nommé à Dalhuis, dans cette vallée du Louvain, qui est un lieu assez étonnant. C'est une vallée qui est fermée l'hiver parce que le col est bouché. Là il y a une route, mais bon, on y va peu. Mais c'est surtout un nid d'aigle. L'école est au-dessus, c'est absolument extraordinaire. Et pour moi c'est là que Freinet s'est construit. Parce que on a retrouvé alors il écrivait sur des bouts de papier, bon il n'y a pas d'argent de toute façon, donc il récupérait des bouts de papier, donc une espèce de bout de carnet, et dessus il écrivait plein de, un petit peu comme des réunions philosophiques, c'est absolument ahurissant, les réflexions des gamins. Alors au début je me suis dit bon bah c'est du Sherlock 2 et tout, non pas du tout. Parce qu'il y a des réflexions qui montrent des gamins, bon. Mais. Et là, je suis certain qu'il passait du temps à observer, à partir de nid d'aigle, on voyait la transhumance, on voyait. Bon, on voit tout ce qui se passe, quoi. C'est une vue extraordinaire, et on peut faire la géographie, on peut faire l'histoire, on peut faire toutes sortes de choses à partir de ça, sans se déplacer. Et là, dans ces carnets, alors j'ai pas encore tout étudié, il faut que j'y retourne, dans ces carnets, on a des témoignages sur les Romanichels qui sont venus dans le village, etc. Alors c'est des petits textes, hein. C'est des gamins qui sont très jeunes, et puis plein de petits témoignages comme ça. Et donc pour moi, la pédagogie Freinet, elle est partie de là, c'est de cette écoute des gamins. Et la transcription de leurs paroles sur des carnets. Alors ces gamins-là, alors c'est en même temps très intéressant parce que ça, pour compléter, les gamins qui sont là, Freinet leur pose la question à un moment donné, bon, quelle est la différence entre les humains et les animaux ? Alors bon, je ne connais pas par cœur la réponse, mais à un moment donné, il y en a un qui dit que ben, les humains, ils apprennent à lire, et pas les animaux. Et puis il y a un gamin qui répond, non, c'est pas vrai, mais on n'apprendra pas à lire, on n'en a pas besoin. Donc c'est. Et ça, il l'a retranscrit. Donc c'est vraiment un travail ethnographique d'écoute des gamins. Et alors qu'est-ce qu'il faisait dans sa classe? Je dis, non, c'est strictement rien. Là, je ne peux pas. Et on n'a plus de témoins. On a essayé de retrouver, mais c'est extrêmement difficile. Maintenant, c'était en 1919.
Il n'y avait pas d'inspection.
Premier poste. Enfin, le tout premier sur lequel il était nommé, il n'a pas pu y aller parce qu'il était à l'hôpital. Donc c'était un poste. Alors ça, c'est un poste de remplaçant, c'est pas un poste fixe. Mais alors combien de temps il est resté, on ne sait pas trop. Officiellement, il est resté du mois d'avril au mois de juillet. Et moi, je suis convaincu qu'il est revenu après. Tout simplement un détail, c'est qu'à un moment, il décrit la vallée, qui était une vallée extraordinaire, c'est-à-dire tout est rouge. Et dans sa description, il parle des fleurs rouges sur du rouge. Or, ces fleurs rouges sur du rouge, elles ne sont qu'à l'automne. Elles ne sont pas au printemps. Donc, il a fallu qu'il les voie. Il ne pouvait pas le deviner. Il a fallu qu'il les voie. Donc, il était encore là à l'automne. Et après, il était nommé au 1er janvier, parce que c'est les préfets qui nommaient, et donc en année civile. Donc le 1er janvier de 1920, il était nommé au Bar-sur-Loup. Du Bar-sur-Loup, il voulait avoir un poste, là il s'est marié, en 26, enfin bon, peu importe les détails, les dates n'ont pas d'importance, et il voulait un poste double. Et c'était pas possible, parce qu'il n'y avait pas la place pour deux postes, il n'y avait pas assez de gamins, donc c'est là qu'il a eu sa mutation pour Saint-Paul-de-Vence, où ça a été très compliqué parce que sa femme voulait être dans la même école, alors une école de garçons pour une femme, c'était pas possible. Donc des négociations qui ont envenimé aussi les choses, parce qu'il a fallu, on a remis ça sur le tapis aussi, c'est que, bon, on lui a fait des concessions, et puis, il nous embête maintenant. Le curé s'en est mêlé, enfin bon. Et à partir de là, donc, il est allé, il a construit son école d'avance. Et il est resté, et c'était le dernier.
Bon, communiste
et il existe toujours.
Non, communiste et anarchiste.
Tu voulais revenir sur les communistes, sa relation.
Oui, ouais, justement, c'est ça, j'y vais. Oui. Alors, bon, Portier, on a fait des conférences, je pense, je ne sais pas si c'était ici, moi je sais qu'il en a fait à Marseille. Il a des écrits aussi, il y a un certain nombre de témoignages. Moi, j'ai essayé d'aller un peu plus loin, et avec une démarche, lui était historien, moi je ne le suis pas, et donc je n'ai pas la même démarche. Et ce qui m'a intrigué, et je reviendrai sur les dates après, mais ce qui m'a intrigué, mon point de départ, c'est je suis dans un mouvement qui est... construit comme le communisme, très hiérarchisé, avec un CA, avec un président, avec etc. Et dans ce mouvement, il y a l'imprimerie, donc où ils font tous les outils dont ils ont besoin dans leur classe, puisque on imprime, qui est très hiérarchisé aussi. Avec son CA, avec son président, avec les trésoriers, etc. Et puis le mouvement lui-même est construit en réseau. C'est pas compatible. Et pour moi, c'est pas du tout le Lénine. Donc il y a quelque chose, une contradiction là. Et c'est ça que j'ai voulu creuser. Et en fait, il est complètement. Et en même temps, il va à sa perte avec ça. Ça se terminera très mal. Il va à sa perte. Pourquoi? Alors, l'explication définitive, je ne l'ai pas, mais il y a quand même un élément, c'est que
Avant de rencontrer Élise, avant de rencontrer sa femme en 26, il est dans les coopératives. Monter les coopératives, syndicats, tout le monde parle du syndicalisme de Freinet, je suis désolé, il a toujours échoué dans les syndicats. Il a toujours échoué. Ça s'est toujours mal fini. Il y a toujours eu un problème. Il s'est servi des syndicats pour faire de la publicité pour son mouvement. Donc tant que l'école émancipée pouvait écrire des textes pédagogiques, ça l'intéressait. Après, il y a un certain nombre de courriers dans lesquels, vraiment, l'école émancipée ras le bol. Donc, il y a toujours cette ambiguïté entre le fonctionnement en réseau et le fonctionnement PC. Et donc, en 26, alors avant 26, il est dans les réseaux. Et depuis pratiquement, depuis Garce, où il monte un syndicat pour installer une turbine électrique dans Garce. Donc là, on est dans un système coopératif. Quand il est arrivé à son premier poste au Bar-sur-Loup, la première chose qu'il a faite, c'est de monter une coopérative. Une coopérative d'alimentation. Enfin, et il est à fond là-dedans. Dans ses classes, la première chose qu'il met en place, c'est la coopérative. Il est dans la coopérative, et la coopérative, à cette époque-là, quand le PC commence à se constituer, c'est l'ennemi. C'est le produit de la bourgeoisie. Donc, voilà, pour moi, l'incompatibilité. Alors après, j'ai creusé, et je suis tombé sur des éléments qu'on n'avait jamais vraiment étudiés. Là, je vais faire un bond encore pour aller à la Deuxième Guerre. Désolé. En 40, il est prisonnier dans les camps successifs. Et là, il échange des courriers avec sa femme. Et ces courriers sont assez étonnants parce que vous êtes dans un camp. Ce camp est soumis à la censure. Alors, tout est vu. Systématiquement. Par moment, on voit qu'il y a un trait noir dessus ou des courriers qui ne passent pas. Donc, quand on communique avec quelqu'un dans un camp, comme celui-là, on compte sur la troisième personne, sur le troisième lecteur. Donc, il faut trouver des astuces, il faut trouver une complicité. Moi, ils se connaissent depuis un moment. Et moi, ce qui m'a intéressé, d'abord, c'est comment on joue avec la censure, parce que ça m'est arrivé d'être sur écoute téléphonique, et quand on sait qu'on est sur écoute téléphonique, ben, on les promène. Vous allez annoncer une réunion quelque part, vous voyez tous les flics qui partent et puis... bon, donc ça aide, le vécu aide. Et donc il y a plein d'astuces, il parle des cousins, des cousines en patois, c'est les parasites. Donc, bon, qui reçoit le courrier interprète en fonction du contexte, et il s'agit bien des Allemands. Après, vous avez des textes sur le copain Louis Blanc. Ben oui, non, mais c'est les flics. Ben, il faut le trouver. Et tout est comme ça. Mais ce qui m'intéressait, c'est, pour répondre à la question du PC et de l'anarchiste, c'est qu'à Chabanais déjà, il écrit à sa femme, et il se lie d'amitié avec Louzon, et avec Mermoz, qu'il appelle le héron. Ce n'est pas des PC pur et dur, hein, loin de là. Et il parle d'eux, sans raconter quoi que ce soit, parce que la censure est là, il faut faire très attention. Mermoz, on peut en parler, parce que c'est lui qui tient la bibliothèque, donc il parle de la bibliothèque indirectement. Et surtout, il n'arrête pas de dire que il se heurte aux croyants. Il a toujours contre lui les croyants. Et dans les croyants, il y a le voisin. Donc ça, les flics ne peuvent pas comprendre ça. Les croyants, c'est les staliniens. Et le voisin, c'est Laurenti, qui était voisin quand ils étaient à Vence, et contre lequel il a passé sa vie à se battre, y compris dans le syndicat qu'ils avaient fondé sur la un paysan, le syndicat des paysans, bon, je ne sais plus le nom exact, qu'ils avaient fondé ensemble, mais bon, ça a été un échec là aussi. Paysanne, mais j'ai perdu de vue. la mémoire. Bon, peu importe. Donc, ça, ça a été un élément pour moi déterminant. Et alors après ça, il y a eu quand même le gros clash avec le PC, parce que il a dû y avoir à Saint-Sulpice, non pas Saint-Sulpice, à Chavanais, pendant qu'il était lui à l'hôpital, parce que bon, il est blessé, il est arrivé à plusieurs reprises de retourner à l'hôpital pour être soigné, même dans les camps. Et pendant qu'il était à l'hôpital, il y a des prisonniers du camp de Chavanais qui ont déconné. Et l'armée s'est fâchée. Et il y en a un certain nombre qui ont été expédiés dans d'autres camps, certains vers l'ouest. Je n'ai pas réussi à avoir toute la liste, mais d'autres en Algérie. Et les camps algériens, contrairement à ce qu'on a pu lire, n'étaient pas si durs que ça. Bon, il faisait chaud, mais ce n'étaient pas des camps très durs. Et là, il y a dû y avoir des fuites, des gens qui se sont vengés de lui. Et il a été traité de collabo à ce moment-là. Et les Freinets, le mouvement Freinet, une partie des mouvements Freinet d'Algérie, a lancé la rumeur qui s'est répandue dans toute la France. Et à partir de là, le GFEN, qui était le groupe stalinien auquel participait le mouvement Freinet, a voulu prendre ses distances et c'est devenu... Non, je ne rentrerai pas dans les détails parce que pas tous les gens du GFN, bien sûr, puisqu'il y a eu des groupes qui ont continué à collaborer, continuent aujourd'hui avec le mouvement Freinet, mais ça a été très très dur avec le Parti communiste. Il y a eu ensuite la période 44 de résistance où il a été nommé aux forces libres, le groupe de Gaulle.
Et FFI.
Oui. Et là, débarque un jour Laura, envoyée par les gaullistes quand ils voulaient la grande fraternité, les résistants en cravate, qui ont voulu l'éjecter comme communiste. Et donc, il y a eu encore une nouvelle bataille de ce côté-là, qui n'a pas fini, puisque moi, je suis interdit de séjour à Valouise aujourd'hui à cause des anciens combattants de cette période anticommuniste. Donc c'était encore un élément de conflit entre les communistes et les anticommunistes. Alors, Élise là-dedans, je pense que c'est, contrairement à ce qui était écrit par Michel Barré, je pense qu'il était déjà au PC quand ils se sont rencontrés. J'ai pas la preuve, mais j'ai une recherche à faire du côté de Valouise, justement, si j'arrive à y retourner. Je pense qu'elle était déjà au PC et elle était vraiment stalinienne. Elle a commencé à douter en 44-45, pas avant. Alors ça explique la structure du mouvement. Ils travaillaient ensemble, c'est elle qui lui corrigeait parce qu'elle était plus. Elle était en fille d'astite, donc elle lui corrigeait ses manuscrits, c'est elle qui. Donc elle mettait sa patte sur une grande partie des articles. Bon, là, j'ai commencé la recherche, parce que là, il y a un travail de linguistique à faire. On reconnaît ce qui a été retouché par Élise, ce qui n'a pas été. Mais bon, il y a un gros travail qu'il faut un jour quelqu'un qui va m'aider dessus. Donc, et ça explique aussi... Alors j'en reviens un petit peu en arrière quand tu dis que les écoles marquent forcément une pédagogie, pas quand on est responsable d'un mouvement, pas tant que ça. Parce que l'école devient un lieu où on vient se former en stage, qu'on vient visiter, donc il faut avoir quelque chose, une certaine permanence. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que Freinet s'adapte à son auditoire. Et moi, je suis toujours très gêné quand dans le mouvement, on donne des citations de Freinet, parce que je demande quel était le public à ce moment-là et quelle était la date. Parce que quand on travaille vraiment sur ces archives, il se contredit en permanence. Donc il ne faut rien prendre à la lettre. S'il est devant un public, un congrès stalinien, eh bien, il est stalinien parce qu'il faut garder ce mouvement. La priorité pour lui, ce n'est pas la politique, c'est la pédagogie.
Est-ce que ça, tu le rentres dans son bon sens ?
Ben c'est ça que je sais. C'est la pédagogie. C'est... Mm. De toute façon, ça te prend Bon, c'est le rapport que j'ai avec les alarmes aussi. Hein. J'étais en 68 à Nanterre, donc j'ai quand même une bonne école. Et j'avais rencontré avant. Donc. Mais c'est la même chose, c'est que tu t'engages, moi je me suis engagé à fond en pédagogie, il n'y a pas la place pour tout. Tu peux pas. Et c'est là que tu mets en place ton. Pour moi, l'aspect libertaire, c'est dans la pédagogie que je l'ai mis en place. C'est pas dans les groupes ou dans les discussions où on fait des motions.
Mais alors pourquoi il lui en voulait tant? C'est une querelle de personnes ou c'est sa pédagogie qui les énervait? Autant elle énervait le maire du bled, elle énervait aussi les Staliniens.
Alors, le problème n'a pas changé depuis, c'est toujours la même chose. Tu es sanctionné pour ta pédagogie, mais on est subventionné pour notre pédagogie. Donc, parce qu'on apporte quelque chose, personne ne le met en doute. On est subventionné plus ou moins bien, blanquerisé, c'est autre chose, avec un pape Gaille, on a peut-être une autre chance, mais à voir, voilà, c'est... Alors, les parents d'élèves, en général, il n'y a pas de problème, sauf quand ça touche à la religion, et que, j'ai travaillé dans l'Est pendant un moment, et les copains voulaient retirer les crucifix dans le Jura, et tu ne retires pas dans le Jura, alors qu'il n'y a pas le concordat, que ce n'est pas du tout l'Alsace ni la Lorraine, tu avais des crucifix dans les écoles, et les parents, ils peuvent te faire mettre dehors, si le maire ne veut pas d'ennui, il va plus les parents, et puis tu as une délégation, un inspecteur d'académie qui ne veut pas d'ennui, il n'a plus aussi. Donc voilà notre vie, et ça continue, Avec les gamins, on n'a pas de problème, puisque de toute façon, la première chose, c'est de les écouter. Et on travaille à partir de notre matière, ce sont les gamins. Pas au sens péjoratif, hein, ce sont les gamins. Mais ben, moi, c'était plus des gamins, parce que les travaux étaient plus grands, mais c'est pareil.
Donc c'est... J'ai pas compris ta réponse par rapport à la question que tu posais. J'ai pas compris ce qui faisait que le... Il était en bisbille avec la frange communiste du mouvement à ce moment-là.
C'est très très compliqué. C'est très compliqué.
Je ne sais plus trop à quel moment, mais...
C'est très compliqué. Je maintiens que ce qui prime, c'est la pédagogie. Ouais. Alors après, dans le mouvement, tu avais des stalles bornées, qui pratiquaient, on ne sait pas trop quoi dans leur classe, peut-être bien, hein, moi je ne peux pas porter de jugement tant que je ne suis pas rentré dans une classe. Mais tu avais des stalles bornées et qui voulaient absolument reprendre le pouvoir et il s'est fait piéger avec ça parce que à partir du moment où tu as les stalles qui veulent prendre le pouvoir, toi tu ne le lâches pas le pouvoir.
Donc, dans les années 50.
C'est le piège complet. C'est le piège complet. Et derrière, il y a tout un mouvement. Et les stalles en question, ils sont minoritaires. Et il y a eu des périodes très très dures. Le congrès de Caen, c'est les années 60, où là, il y a eu des exclusions dans le mouvement. Il a fait des conneries monumentales, mal conseillées. Et ça a été une catastrophe, ils s'en sont pas remis. Et là, c'était des questions de pouvoir. Des questions de pouvoir d'une minorité. Les stalles étaient minoritaires.
Mais fin stratège.
Exactement. Et derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'imprimerie. Eux, ils n'avaient pas les moyens de se payer une imprimerie. Les GFEN en particulier n'avaient pas les moyens de se payer une imprimerie. Donc il y avait l'imprimerie, ils mettent la main sur l'imprimerie. Donc on a eu la CGT qui a mis le bordel aussi à Cannes dans l'imprimerie pour pouvoir appuyer ça. Et puis, donc on a eu tout ça à gérer. Et finalement, il s'est trouvé complètement piégé avec ça. Où il est devenu le chef irremplaçable, il n'y avait que lui. Et on a recommencé à parler, et grâce à Élise, pédagogie Freinet, parce qu'il fallait mettre Freinet, alors que lui avait appelé ça école moderne. Ouais, pour justement qu'il n'y ait pas son nom sur une pédagogie qui était construite collectivement. Mmh. C'est pas lui. Bon, il a eu un. Bon, c'est lui qui a animé, c'est lui qui a certainement le plus lu, le plus voyagé, qui a été porteur, qui a été l'animateur de ça, mais il n'était pas seul. Et ça a été une catastrophe quand quelqu'un comme Alziari, qui était dans le Var, enfin bon, qui a voyagé dans les Alpes maritimes de le Var, Alziari, qui était un des tout premiers à avoir adhéré au mouvement Freinet, hein, un des tout premiers, et ça s'est terminé, il a été pratiquement exclu. Enfin, c'était par Élise, c'était un drame. Par Élise, la femme de Freinet, oui. Et là, il y a un dossier où je suis dessus, là, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais bon, c'est fait partie de l'histoire des archives. C'est terrible. C'est terrible. Élise en est arrivée. Alors, le problème, c'est que quand je dis des choses comme ça, on me dit que je suis sexiste et tout le bazar, mais il faut arrêter les conneries.
On n'a rien dit. Hein.
Ah non, mais on me l'a fait. Là. On me l'a fait.
Ah oui, c'est ça. Francisco Ferrer. Est-ce que le terme école moderne fait référence à Francisco Ferrer?
Alors.
Quels sont les liens éventuels?
Je ne suis pas communiste, donc les versions changent en fonction de ça. Pour Élise, ça n'a absolument aucun rapport. C'est qu'il ne voulait plus qu'on s'appelle école nouvelle, ce qui n'a jamais été.
Moderne.
École nouvelle.
Ah,
le mouvement général de l'école nouvelle.
Ah, oui.
De Ferrière, de Caparet, de Lécroly, et etc. Donc ce mouvement-là, Freinet l'avait déjà dénoncé depuis très longtemps. Donc il ne pouvait pas appeler son mouvement école nouvelle. Il avait déjà dit que ce n'était pas la pédagogie active, que ça, bon, à un moment, c'était intéressant, que dans une classe Freinet, on peut faire de la pédagogie active parce que c'est ouvert et que si c'est le bon moment, moi, je l'ai fait. Et puis, ben oui, quand on prépare le bac, ben, il y a des moments, on peut pas, on est obligé d'être dans une autre pédagogie. C'est normal et ça pose aucun problème. Alors, bon, ma version. Après la guerre, il y a eu ces conflits avec le PC. Et en même temps, il ne voulait surtout pas qu'il était déjà le chef, le responsable, l'animateur, pour les raisons que je viens de dire, c'est qu'il coinçait complètement dedans, et il ne voulait pas que son mouvement s'appelle Freinet. Donc il fallait trouver un mot, une expression qui globalise et qui inclut tous ceux qui appartiennent à ce mouvement, qui n'étaient pas encore tout à fait cotisants, mais on va avoir une cotisation. Et il était contre les cotisations, mais bon, il a été obligé de se soumettre parce qu'il y avait un vote. Et dès 1927, il était en contact avec le mouvement espagnol. Bon, il a fait venir des Espagnols en 27 au premier congrès. Il ne pouvait pas ignorer qui était Ferrer, d'autant plus qu'il y a eu des articles sur Ferrer qu'il a lui-même, qu'il n'a pas écrit, parce que ça s'est trouvé comme ça, mais qu'il a contresigné, puisqu'ils ont été publiés dans les revues. Donc, il a fait publier sur Robin, sur... il a pas tout écrit, mais Ferrer fait partie des gens qui étaient honorés dans le mouvement. Une référence dans le mouvement, et par les Espagnols, parce que, attention, c'est une fédération. L'Espagne est entrée dans le mouvement. Alors on n'arrive pas, là je travaille avec un Mexicain qui est spécialiste de ça, on n'arrive pas à trouver la date de début, mais en 24, les Espagnols étaient déjà imprimeurs. Donc c'est les 24, c'est le début de l'imprimerie au Bar-sur-Loup. C'est le début. Et il y a des mouvements qui se sont raccrochés, qui étaient déjà des mouvements qui étaient dans la même mouvance. Le Ferrer était derrière. Il ne se réclamait pas de l'école moderne, mais le mouvement Batek, il n'est pas né comme ça de rien. Et donc, Freinet ne peut pas l'ignorer quand il appelle son mouvement l'école moderne. Alors, pourquoi il fait ça? C'est une provocation. C'est une provocation. Alors, ça a marché parce que le PC est levé, enfin bon, ça a été... C'est une provocation, mais on ne peut pas l'expliquer autrement, c'est pas possible. On ne peut pas l'ignorer.
Il était quand même lié à Lauzon et Geoffrey. Qui animait le courant en syndicaliste révolutionnaire, quand même, de Monate, qui était la révolution prolétarienne. Il était bien lié avec eux, et donc à travers ça, toute la partie espagnole passait
évidemment
dans la CGT et qu'ils le voulaient ou non, le PC, ils étaient confrontés de par le pouvoir monat syndicaliste révolutionnaire à la partie espagnole, à la partie anarchiste espagnole. Et je pense que Freinet devait bien être au courant de
mais forcément, je travaillais avec eux.
Ils
étaient en relation avec les instituts espagnols qui étaient pour la plupart anarchistes.
Oui, je pense que à Nice, ils ont eu des gros problèmes avec les staliniens. Je ferai tout ce qui n'était pas dans la ligne du parti et tout. Ils ont été traqués, ils ont été insultés et tout ça. Et je pense que Freinet, il avait des liens très très forts avec eux et chaque fois il faisait des références de cette tendance-là pour peut-être faire chier les Scandinaves aussi, pour les pousser à bout, pour les détruire.
Oui, donc ça, je...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement de va-et-vient entre l'Espagne et la France, oui. Puisque bon, Ferrer a inspiré, mais enfin, il y a eu le mouvement Freinet a été introduit en Espagne. Et là, moi, j'ai pas mal lu, il n'y a pas beaucoup de choses en français, c'est un certain Ramon Acine, qui était artiste, pédagogue, et on dit que c'est lui qui a introduit la pédagogie Freinet, sûrement à la fin des années 20, je pense. Et il y a des congrès Freinet, on trouve des traces avec l'intervention de ce Ramon Acine, qui malheureusement se trouvait à Huesca, qui a été pris en 36 par les franquistes et qui a été fusillé aussi vite parce que pédagogue, artiste, membre de la CNT, mais plutôt pas forcément pour la violence. Donc il avait tout faux et il a été fusillé dès l'été 36. Et moi, j'ai lu des paroles. On trouve beaucoup de choses. En Espagne, on commence à avoir des livres sur lui. En France, il n'y a quasiment rien.
J'ai un film, mais
il faut le traduire.
Il faut le traduire, puis en plus il faut les droits. C'est un essai qui est fait par Valence, je crois.
D'accord.
Donc je l'ai en réserve, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore montré parce que je ne peux pas. Mais...
J'ai ramené d'Espagne, enfin de Huesca, un volume avec ses écrits, et il y a des comptes rendus de congrès Freinet à Huesca.
Oui, il y avait un groupe à Huesca, quoi. Ouais.
Et donc c'est des va-et-vient, parce qu'effectivement ils connaissaient Ferrer, mais là ils introduisent. La pédagogie entre guillemets de Freinet, c'est-à-dire l'imprimerie.
Il y a tous ceux qui sont partis au Mexique.
Ouais. Le type que j'ai cité au début, c'est son cas.
Tapia.
De Tapia. Mmh.
Oui.
Bon, enfin, en tout cas, lui, Ramon Acine a été fusillé. D'ailleurs, en Espagne, les instituts, ils ont été parmi les premières victimes. Il y a un film qui s'appelle La langue des papillons, je crois, en Galice, où on voit, et ils ont fusillé, les franquistes ont fusillé parce que tous les instituts, ça prouve que c'était des gens très dangereux. Pourtant, ils n'étaient pas tous anarchistes, certains étaient socialistes modérés, mais. Il disait, il bourrait le crâne des enfants au lieu de. Et il faisait le contraire de l'éducation des curés, quoi. Et ça, il faudrait leur rendre hommage parce que c'est pas. Il y a eu. Pas, on va pas parler de génocide d'institut, mais enfin, un institut suicide.
Oui,
il
y en a eu beaucoup.
Voilà, je sais pas, vous avez. Oui, vas-y.
C'est moi ce que tu disais sur la lettre du gamin qui avance le fait que le maire il peut se marier sur quelque chose et tout. Ça me fait penser ce qui s'est passé au Chili quand il y a eu le coup d'État de Pinochet. Ils avaient demandé, donc l'armée avait demandé aux instituts qu'ils fassent faire des rédactions pour. Où les gamins devaient expliquer. Ce qu'on racontait à la maison, ce qu'on attendait, ce que tout ça et tout. Et donc, ils ont eu plein de documents, ça leur a permis d'arrêter des tas de gens, parce que les gamins avaient fait des rédactions comme ça. Et ça se servit pour arrêter. Et au Chili, ça a été beaucoup plus loin que les arrestations.
J'ai pensé à une anecdote, quand j'ai dit tout à l'heure que ça s'était mal terminé dans. Un certain nombre d'erreurs de Freinet. Après la mort de Freinet, Élise vivait dans un appartement à côté de l'école, enfin une petite maisonnette à côté de l'école. Et les témoins m'ont raconté que la cantine était tenue par la collectivité. Les enfants servaient à table, faisaient la vaisselle, enfin bon. Et les enfants venaient lui apporter à manger. Et à ce moment-là, elle cherchait les renseignements sur tous les inscrits et savoir ce qu'ils faisaient dans les classes. Et c'est comme ça qu'elle en a viré un certain nombre.
Et une autre anecdote sur ce que tu as lu, le rapport de police, qui est souvent contradictoire, c'est qu'à l'époque, ils étaient payés à la ligne, les indics. Donc, ils en étaient payés.
Il faut les voir les rapports, comment c'est fait. Mais le pire, c'est que je suis tombé sur des rapports de préfets comme ça griffonnés. C'est ahurissant. N'importe quoi.
Oui, parce que...
Et je suis tombé aussi sur un truc étonnant. Bon, là, c'est plus sur le... J'ai pas mal travaillé sur les lettres de guerre. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. C'est presque la moitié du bouquin parce que ça m'a interrogé. Moi, j'ai un problème avec l'histoire. Et l'histoire, il y a toujours une idéologie derrière. Et là, on a été dans l'histoire racontée par les communistes puisqu'il n'y avait que ça à l'université. Et on a sombré dans une histoire de Gaulle. Et toutes les versions, c'est de Gaulle. Mais par contre, à partir de la commémoration de la guerre de 14, il y a eu un phénomène assez étonnant. Beaucoup, beaucoup de travaux ont été écrits sur la guerre de 14. Donc en 14, en 15, 2014, pardon, j'y arrivais, 15, etc. Et en même temps, ça a déclenché tout un travail de recherche sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, moi, je suis tombé sur une réécriture complète de tout ce qu'on a appris à l'école et tout ce qu'on entend encore. C'est assez étonnant. Je suis en train de faire des détours.
J'ai une autre question. Comment ils se sont formés à l'imprimerie?
Tu parles de quelle imprimerie?
L'imprimerie qu'il y avait dans le mouvement.
Parce qu'il y a l'imprimerie dans la classe.
Oui, dans la classe, et puis en plus ce qui leur servait
à diffuser les
livres. Ben, c'est pas la même. Après, au début, c'était le même type de matériel, mais très vite, on a eu des rotatives, on a eu vraiment une véritable imprimerie quoi, qui s'est installée, et ça. Oui, alors quelle année, c'est quand il y a eu la première faillite. Là, bon, on ne produisait pas assez, et puis ça a été très mal géré, à mon sens, parce que s'ils avaient fait des affiches pour la ville, bon...
Au début, c'était fait avec les cases typos.
Alors, le point de départ de l'imprimerie, cette histoire-là reste encore à écrire. La première trace que j'ai trouvée, c'est au XVIIIe siècle en Argentine, où on fait imprimer des textes par des jeunes, par des enfants, qui impriment leurs propres textes. Donc Freinet n'a rien inventé, il ne pouvait pas le savoir, hein. Mais il n'a rien inventé. J'ai fouillé des traces après 1810 en Italie. Donc c'était déjà quelque chose qui était dans l'air. Après, il y a eu, dans le nord de la France, il y a eu Vunins qui faisait son journal. Alors lui, il n'avait pas encore osé faire utiliser l'imprimerie, les casses par les enfants. Donc lui, il publiait lui-même les textes des enfants. Il tenait un journal anarchiste par ailleurs, donc les Indes. Et non, ce qui a été le point de départ, c'est la visite en Belgique avec de Croly, où là, il y avait des imprimeries. C'était pas les enfants qui la géraient, mais il y avait des imprimeries dans les classes. Et donc c'était pour valoriser les productions des enfants. Mais les enfants ne s'en servaient pas. Donc après, il y a eu tout un travail de recherche, et ça c'est le point de départ du mouvement, la première coopérative, donc, et qui a donné le lieu à une revue qui s'appelait l'imprimerie à l'école. La première recherche, ça a été de 1926 à peu près, les premiers rapports c'est 1924, les premiers échanges qui se passent entre classes. Donc faire un réseau pour qu'on puisse discuter entre nous, sur l'utilisation de l'imprimerie. Et l'utilisation, pour mettre en valeur des textes des enfants, c'est une chose, mais l'utilisation qui soit une imprimerie qui soit utilisable par les enfants. Donc, comment, quel type de caractère utiliser? Donc là, on a toutes sortes de documents là-dessus, et les échanges qu'il y a entre les instits, c'est d'abord ça. Qu'est-ce que tu utilises, toi, pour faire quoi, avec quels enfants, quelle classe, et comment tu les ranges? Parce qu'on ne pouvait pas les ranger comme le font les imprimeurs. Donc, il a fallu inventer un système de rangement des caractères. Après, c'est... Oui, enfin voilà, c'est ton, toute une collection et des presses. On a essayé différents types de presses juste au moment où bon, on est arrivé à quelque chose de performant. Et c'est ça qui est important dans le mouvement. C'est là que, là encore, c'est le bon sens du paysan. Le paysan, lui, il ne va pas chez le garagiste, il ne va pas chez quand il a cassé quelque chose. Je parle de quand ils sont en autarcie, de, ce que je décrivais tout à l'heure. Lui, ben, il répare, il se débrouille. Moi, quand j'étais dans la forêt en Guinée, je faisais mes jouets moi-même, je n'avais pas de commerce pour les acheter. Donc, on se débrouille, Freinet faisait ses jouets. Les gamins faisaient leurs jouets, inventaient leurs jouets. Donc, on est tout de suite dans le manuel. On a besoin d'un objet, on va le fabriquer. Et ça, c'est la base, le départ du mouvement. Donc, après, on a fait quoi? On a inventé des appareils de projection. On a inventé et fabriqué des phonographes. C'est ahurissant quand on voit l'histoire technique du mouvement. On l'a pas encore faite, celle-là, on l'a pas encore écrite, mais c'est extraordinaire. Et ça, on l'a perdu. Aujourd'hui, heureusement, on a encore le groupe musique qui travaille sur cet aspect de bricolage en fabriquant leurs instruments et tout. Donc on est en train de revenir à ça. Mais moi, jusque dans les années 80, c'était fondamental. Moi, j'ai fabriqué des appareils de reproduction. Diazocopie, c'était un système de photocopieur solaire. On n'avait besoin de rien du tout. On n'avait pas de photocopieur, on n'avait pas les moyens. Donc, bon, ben, photocopieur solaire, c'est du papier récupéré chez les architectes. Ça se révèle au soleil, un peu d'ammoniac, et ça y est. On reproduit le texte avec ça. Je surveille l'heure, oui, parce qu'on a un train.
Merci.
Oui,
merci beaucoup.
Alors, on a un train aussi, on va être. Oui, bon, je n'ai pas utilisé un loin de là.
Après, comme vous avez un train à prendre, on va peut-être continuer à discuter autour d'un verre, comme ça vous allez prendre une petite pause. Alors, bonjour, merci d'être venu.
Merci.
Merci de votre écoute attentive. On vous rappelle que le bouquin de Michel est en vente, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter directement, ce sont ces exemplaires.
Enfin, c'est une association. Hein.
Voilà, c'est une association.
Je n'ai pas un centime dessus.
Voilà, j'imagine que ce n'est pas lucratif.
Non.
Et donc, n'hésitez pas, parce que là, ce qu'il nous a dit, c'est une toute petite partie du bouquin, là, que j'ai parcouru. Et il y a encore beaucoup d'autres éléments qui vous intéresseront. Puisque vous
avez et c'est censé s'alimenter, je continue.
Voilà, après, avec le site. Donc, voilà.
Sur le site, il y a des films, il y a des... Voilà.
Vous pouvez aller voir directement Michel pour le bouquin. Et puis sinon, vous pouvez partager un verre ensemble et discuter, et continuer à discuter. En tout cas, merci.
Merci.
Voilà, c'était une conférence sur Célestin Freinet et les méthodes de son même nom, enregistrée au CIRA de Marseille. Vous écoutez Radio Libertaire, c'était un rayon de soleil. Bonne journée à tous. Libertaire 4.